Bonjour à tous. Les habitués le savent, nous sommes engagés dans une étude des personnages bibliques. Enfin, les différents orateurs qui interviennent ici ont le choix entre tous les personnages bibliques. Et moi, quand on me donne le choix, ça m'embarrasse plus que ça ne me facilite la vie. J'ai énormément de mal à choisir. Et donc, je me suis laissé suggérer par quelqu'un qui se reconnaîtra et qui m'a dit « ça serait bien que tu parles d'Ève. Pourquoi pas Ève ?» Et donc, je vais parler d'Ève, mais d'une manière qui m'amène à vous demander votre indulgence, parce que c'est un week-end un peu particulier pour nous, mais peu importe. Je n'ai pas eu autant le temps que d'habitude de structurer ma pensée, donc si vous le voulez bien, ça va être une... J'allais dire une lecture commentée, ça sera un peu plus que ça, et en tout cas, sur le ton de la conversation. Alors, pardonnez d'avance la forme. Je vais lire, vous vous en doutez, le deuxième récit de la création. Alors, pourquoi deuxième récit? Enfin, vous le savez, mais on va le dire quand même. Il y a deux récits de la création. L'un qui commence évidemment... Genèse chapitre 1er verset 1er et le deuxième, Genèse chapitre 2 verset 4. Deux récits de la création et en guise d'introduction, j'aimerais vous convaincre que les multiples, alors là je parle comme un cartésien, comme un occidental du 21e siècle, donc prenez ce que je dis avec des pincettes, les multiples contradictions qui existent entre ces deux récits ne sont pas des obstacles mais des richesses. Si vous faites le catalogue, et il y en a qui ne s'en sont pas privés, évidemment, de tout ce qui ne colle pas, apparemment, entre les deux récits, évidemment, on s'en donne à cœur joie. Alors, peu importe l'aspect, j'allais dire, académique, les deux récits, par simplicité, on les appelle éloïstes et yavistes, alors c'est simplement parce que alors, ce sont deux récits, pardon pour ceux qui ne croient pas ça, mais moi j'en suis convaincu, donc j'ose le dire, ce sont deux récits qui émanent de toute évidence de deux auteurs différents, parce que le vocabulaire n'est pas le même, parce que la syntaxe n'est pas la même, parce que le propos n'est pas le même, et parce que jusqu'à dans la manière de nommer Dieu, les deux auteurs s'y prennent différemment, puisque donc on appelle le premier récit éloïste, parce que dans le premier récit Dieu est nommé Elohim, donc qui est un pluriel, et qui est, alors, c'est difficile de dire un nom commun, parce que comme il est le seul à le porter, bien sûr que ça devient un peu un nom propre quand même. Mais dans la deuxième tablette, comme on dit en hébreu, dans le deuxième récit, qu'on appelle le récit yaviste, là, Dieu est nommé par son nom propre, c'est-à-dire celui qu'il donnera à Moïse, quand Moïse lui dira sur la montagne « c'est bien d'aller dire au peuple ce que t'as à leur dire, mais ils vont me demander comment tu t'appelles » et vous savez que Dieu répond donc par ce... Alors, dans la Bible, c'est un tétragramme, YHWH, qui vraisemblablement peut, sans trop risquer d'erreur, se prononcer Yahweh, mais que justement on ne prononce pas, parce que c'est un nom tellement saint que les Juifs ne le prononcent pas, et donc dans les copies des textes, alors évidemment ils ne vont pas barrer, ça serait un sacrilège, mais au-dessus, pour être sûr de ne pas oublier que ce nom-là ne se prononce pas, dans les copies, encore aujourd'hui d'ailleurs, du judaïsme, on écrit au-dessus le mot « Seigneur », c'est-à-dire « Adonai », qu'on écrit au-dessus de Yahweh précisément pour ne pas le prononcer. Et donc, dans la première tablette, c'est Elohim, et dans la deuxième tablette, c'est Adonai, c'est-à-dire Yahweh. C'est évidemment pas la seule différence. Je vais pas... alors, vous savez que la première tablette, c'est la création en 6 jours. 6 jours calendaires avec un soir, un matin, tout ça est très connu, avec la végétation qui est créé le troisième jour, les animaux de mémoire aquatiques, il ne faut pas dire poissons, parce qu'il y a aussi des animaux aquatiques qui ne sont pas des poissons, et les oiseaux qui sont créés le cinquième jour, les animaux terrestres au début du sixième jour et les êtres humains aussi le septième jour, un peu plus tard. Le sixième, j'ai dit quoi ? Ah non, le septième, il ne se passe rien. On est d'accord. Donc, le sixième jour. Donc, c'est dans cet ordre-là. Et apparemment, enfin, le texte a l'air de tenir à cet ordre chronologique, puisqu'on nous dit à chaque fois un soir, un matin. L'être humain est créé en dernier, dans la première tablette, et l'être humain est créé les deux ensemble. C'est-à-dire que Dieu décide de créer un être humain à son image, et on dit, il fait l'être humain à son image, et il l'est, là ça passe au pluriel, il l'est créé, homme et femme. Il les crée mâle et femelle. Pas la même chose. Il les crée mâle et femelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce récit, les êtres, pour que l'image de Dieu soit fidèle, il faut les deux. Ça veut dire qu'ils sont créés en même temps et ils sont créés sexués. Parce que le fait de dire il les créa, ça veut dire qu'il en fait deux d'emblée. Enfin, au moins deux d'ailleurs. Et donc, ce qui ponctue, ça vous le savez aussi, ce qui ponctue le récit, c'est qu'à chaque fois, Dieu porte une appréciation sur ce qu'il a fait, chaque jour, et c'est bon, et c'est parfait. Donc on insiste sur la perfection, et on insiste sur le fait que ces êtres humains, ils ont une mission, Dieu les bénit et leur dit, donc ils ont une mission, c'est de se reproduire, jusqu'à remplir la terre, et pour ça, parce que on a tendance à, et ça c'est vrai que c'est un peu regrettable, à utiliser le concept de bénédiction ou de bénir comme un truc assez vaporeux, assez « Seigneur, bénis-nous ». Bon, d'accord, bénis ton Église, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ou « Grand Dieu, nous te bénissons », ça veut dire quoi ? Ça, je ne suis pas en train de dire que ça ne veut rien dire, je suis en train de dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit. Et quand Dieu bénit les êtres humains qu'il vient de créer, en leur disant « reproduisez-vous », ça veut dire, là, très précisément, il leur donne la capacité d'eux. Dieu leur fait le cadeau de la capacité de se reproduire, et il leur dit « faites-le ». C'est pour ça qu'effectivement, on va un peu loin en disant que la stérilité, c'est une malédiction dans l'Ancien Testament. C'est pas tout à fait vrai, mais ce qui est vrai quand même, c'est que les femmes qui le vivent comme la privation de cette bénédiction-là. Dieu ne m'a pas béni parce que je ne suis pas capable d'eux. Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Bon, voilà, très brièvement, résumé, la tablette dont je ne vais pas parler. Et si vous prenez l'autre tablette, alors vous allez voir, mais vous le savez déjà, qu'on dit à peu près tout le contraire, puisque l'être humain est créé en premier. Vraisemblablement, si l'on en croit la suite du récit, il n'est pas créé sexué. La terre, on précise qu'elle n'est pas végétalisée et qu'elle ne le sera pas entièrement, mais que seulement un jardin. Donc seulement un lieu très précisément délimité. Je peux continuer le catalogue comme ça, parce que la seule appréciation, le seul jugement de valeur qui est porté, c'est pas contrairement à la première tablette, c'est bon, c'est parfait, c'est pas bon. Au moment où Dieu se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est pas bon qu'il reste tout seul, etc. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui le font, parce que du coup c'est facile d'en déduire que soit un des deux récits est complètement bidonné, soit il y a, et c'est plus vraisemblablement envers ça que la majorité des théologiens libéraux s'orientent, soit il y a un peu de vrai et un peu de pas vrai dans chacun des deux récits, et il faut faire la synthèse. C'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ça ne vous a pas échappé, on a deux yeux, on a aussi deux oreilles. Pourquoi est-ce qu'on a deux yeux plutôt qu'un seul au milieu? Pourquoi on n'est pas des cyclopes? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit mieux. Je ne vais pas vous expliquer ce que vous savez, c'est-à-dire que les deux yeux ne voient pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, il suffit d'être borgne, je ne vous le souhaite pas, et moi non plus, mais les borgnes savent de quoi je parle, et ceux qui n'entendent que d'une oreille aussi. Si on a deux yeux et deux oreilles, c'est parce qu'avec ça, on voit mieux et on entend mieux, c'est-à-dire, on voit et on entend, si je peux me permettre, en stéréo. Et le fait qu'on ait, nous, inventé la stéréo, c'est aussi pour ça. C'est aussi parce que, quand il y a deux sources, on perçoit mieux. Les musiciens qui sont ici pourraient confirmer que, quand on est dans une salle de concert, selon qu'on est à l'extrême ou à l'extrême opposé, on n'entend pas le même concert. Pour les fouteux du fond, je pourrais prendre un autre exemple en disant vous lisez le lendemain dans la presse le récit du match Paris-Marseille par un supporter de Paris et par un supporter de Marseille, vous êtes convaincu que c'est pas le même match. Pourtant c'est le même match, parce que vous avez d'un côté celui qui va écrire c'est normal qu'on ait gagné et ils auraient dû en prendre plus parce qu'ils étaient nuls. Et puis l'autre qui dit, si on a perdu, c'est à cause de ce crétin d'arbitre qui n'a pas voulu siffler le pénalty, etc. Et donc, on pourrait se dire, alors c'est pas le même... pareil, si à la place des yeux, on avait des antennes et si on pouvait voir un objet de devant et de derrière, on pourrait être tenté de dire, c'est pas le même objet. Au contraire, on en a une vision plus complète. Et donc, la Bible souvent fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop cartésien quand on lit la Bible. C'est que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quatre, alors là c'est de la quadriphonie, il y a quatre évangiles, parce que c'est tellement important ce que Jésus a vécu, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, que si on n'a pas des caméras partout, on en rate la moitié. Et donc, là on est dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on est dans le cas de deux récits qui ont, et n'oubliez jamais cette phrase de Paul, tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, et pas à titre documentaire. Encore une fois, la Bible n'est pas un livre de science. Donc, il y a une intention dans chacun des récits, et l'intention n'est pas la même. Et c'est, encore une fois, il faut le voir comme une richesse, plus que comme un problème. Donc, la deuxième tablette commence au chapitre 2 et au verset 4. Telle est la naissance, alors donc ce sera, on va dire, une lecture commentée. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun arbre des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il souffla dans ses narines l'haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, donc seulement là et pas ailleurs, alors que, je rappelle que au troisième, dans l'autre tablette, on dit que la terre se couvre de verdure et d'herbes, etc. Donc c'est toute la terre, et là c'est bon. Mais encore une fois, le propos n'est pas le même. Donc, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger. L'arbre de vie au milieu du jardin, ne perdez pas sa vue. Et là, la phrase est construite d'une manière qui ne permet pas d'hésitation. C'est l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très clairement, dans la phrase, le « au milieu du jardin » se rapporte à l'arbre de vie, au centre de tout, il y a la vie pour Dieu. C'est important de garder ce détail à l'esprit. Donc après, on situe, géographiquement c'est un bien grand mot, mais on parle des fleuves qui alimentent le jardin, donc je passe au verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et pour le garder. Le Seigneur prescrivit à l'homme, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu devras mourir. » Là, ça mérite qu'on s'y arrête. Je pense que tout le monde ici y a réfléchi au moins une fois dans sa vie, et vous avez peut-être lu, en tout cas moi je l'ai lu, sous la plume, en plus de théologien, si on ne gratte pas un peu, pardon, encore une fois, je veux pas des propos choquants pour le plaisir de choquer, mais c'est un peu pervers de la part de Dieu de mettre un arbre avec des fruits accessibles et en disant « tu touches pas ». Qui ici, quel parent ici, met un pot de Nutella sur la table en disant à son gamin « l'huile de palme, c'est pas bon ». Il faut être tordu quand même. À ce moment-là, le Nutella, tu le laisses dans le magasin si tu n'aimes pas l'huile de palme pour ton gamin. Et Dieu fait ça avec ses enfants. Alors, ce qu'il faut en comprendre, évidemment, mais là, j'enfonce des portes ouvertes, c'est que cet arbre, c'est la condition d'une relation entre Dieu et l'homme, qui est une relation de liberté. Parce que, si c'est pas l'arbre, qui est pour l'homme la source de la connaissance du bien et du mal? Bah, Dieu lui-même, bien sûr. Bien sûr. Comment est-ce que l'homme sait ce qui est bien et mal? Alors, j'ouvre une parenthèse que je referme très très vite malgré l'envie. C'est, ah bon, il y a déjà du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, mal, c'est que le mal existe. Bon, et ça, si vous ne voulez pas m'entendre pendant 4h30, on va laisser ça de côté. Bref, le mal existe. La potentialité du mal existe déjà. Qu'est-ce qui fait que l'homme va savoir ce qui est bon ou mauvais pour lui? C'est sa relation avec Dieu. Et pour que cette relation avec Dieu ne soit pas contrainte, ben, j'ai pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre source. Dieu qui veut l'homme libre, parce que à son image, va créer les conditions d'une relation non contrainte en disant « la source de la connaissance du bien et du mal, c'est moi, mais si tu en veux une autre, tu peux. » Avec, encore une fois, c'est pas de l'ordre de la punition, parce que le Dieu castrateur, machin, etc. Non, c'est pas de l'ordre de la punition. Mais Dieu dit dans la foulée « je suis pour toi la source de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, je suis aussi la source de la vie. Donc, parce que je t'ai fait libre, parce que sinon ça n'aurait pas de sens, parce que tu serais mon jouet, sinon, parce que je t'ai fait libre, tu peux choisir une autre source de la connaissance du bien et du mal, tiens voilà, et je te piège pas, je fais un arbre dont les fruits sont parfaitement accessibles, parce que sinon l'arbre, je le fais pas, tout simplement. Il y a tellement d'arbres avec tellement de bons fruits dans le jardin que de toute façon, tu ne vas pas crever de faim. Donc, s'il en manque un, c'est pas grave. Mais si je veux te priver de ta liberté, cet arbre-là, soit je l'enlève, soit je te fais un coup encore plus tordu, c'est-à-dire un tronc de 15 mètres lisse comme une planche à laver, et les fruits en haut, et à ce moment-là, accroche-toi. Dieu ne fait pas ça. C'est la condition de la liberté de l'homme. Tu peux vivre dans une relation non contrainte avec moi, la connaissance du bien et du mal. C'est pas, tu ne sauras pas ce qui est bon et mauvais. À chaque fois que tu me demanderas, je te le dirai. Donc, soit c'est comme ça, soit, effectivement, tu peux aller vers une source différente. Mais ça va avec la source de la vie que je suis. Et donc, si tu te prives de l'un, tu te prives de l'autre. Parce que sans relation avec moi, toi, créature, tu n'as plus aucun intérêt pour moi, créateur. Voilà ce qu'il faut comprendre de ça. Et donc, tu devras mourir. Et alors, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon, donc dans cette tablette-là, la seule appréciation, comme je vous le disais, qui est portée, alors que dans l'autre tablette, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui sera, qui lui correspondra. Alors c'est un peu difficile à traduire, mais bon. Alors, deux remarques par rapport à ça. D'abord, de cette phrase, alors, ce qui est traduite différemment selon les versions, on a tiré et injustement tiré, une supériorité ontologique, pardon pour le terme technique, mais de l'homme sur la femme. Parce que la femme n'est qu'une aide, et donc elle est inférieure. Alors ça, c'est pas vrai du tout, pour une raison simple, c'est que le terme qui est traduit par « aide » à cet endroit-là, dans quasiment toutes les autres occurrences, dans tous les autres cas où il est employé dans l'Ancien Testament, accrochez-vous, c'est Dieu qui est qualifié d'aide de l'homme. Donc ça ne veut pas dire que quand on est l'aide, on est inférieur. Quand je dis à José, viens m'aider, mon ordinateur est planté, il vient à mon aide, je peux vous dire que je ne me sens pas supérieur hein, face à un écran d'ordinateur et à un clavier. Bon, mais c'est exactement ça. Et si ça ne suffisait pas comme démonstration, qui lui corresponde, ça veut dire quoi? Parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas tout seul, l'homme. Enfin, moi, la présence de Dieu, ça me suffit. Dieu est là, et l'homme se sent seul. Il faut être gonflé, quand même. Enfin, il se sent seul. C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et, encore une fois, la réflexion qui vient à l'idée, c'est être en relation avec Dieu, ça comble une vie. Normalement, il n'y a plus besoin de rien d'autre. Sauf que, la solitude dont il est question ici, c'est, encore une fois, pardon pour le terme technique, ce qui veut dire sur le terrain de l'être. Ontologique, ça veut on, O-N-T, hein, ça veut dire ça, c'est sur le plan de l'être. C'est qui, une aide, qui lui corresponde, c'est-à-dire qui soit sur le même plan que lui. Et évidemment, quand on est en relation avec Dieu, on n'est pas sur le même plan. Dans la relation créature-créateur, et il y a bien quelque chose sur lequel les deux récits de la Genèse sont d'accord et univoques, c'est « on n'est pas des dieux ». Ça sert aussi à ça, les deux récits de la création, c'est « on n'est pas des dieux ». Non mais, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, elle est belle cette phrase, mais elle est fausse. Elle est fausse. L'être humain, c'est Adam. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la terre, c'est Adama. Et quand on va, d'ailleurs, encore une parenthèse, quand on va lire tout à l'heure ce qui n'a de sens qu'en hébreu, parce que celle-là, on va l'appeler femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Manque de bol, en français, le mot femme n'est pas le féminin du mot homme, alors qu'en hébreu, si. Et donc, il y a deux façons en hébreu de nommer l'homme. Il y a Adam et Ish. Et donc, Adam parce que Adama, la terre, et Isha, la femme, parce que tirée de l'homme. Ce qui veut dire, et les écologistes évangéliques devraient mettre ça en avant plus souvent, ce qui veut dire que la relation de l'homme envers la terre est de la même, au niveau du respect qu'il lui doit, est de la même nature que, enfin du respect, pas simplement, mais de l'attention, on va dire, qu'il lui doit, est calquée, et inversement, sur celle de la femme vis-à-vis de l'homme. Autrement dit, si on exige, et l'homme n'a rien à exiger, mais si on attend de sa femme de la considération, de l'attention, du respect, on doit la même chose à la terre. Bon, mais, parenthèse fermée. Donc, pour que la démonstration soit complète, l'homme, et c'est vrai que si on ne prend pas ça sous cet angle, le récit prête à rire, presque, parce que Dieu fait défiler, enfin Dieu crée, alors on va lire la suite, le Seigneur modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, alors c'est pas dans le même, donc là c'est la création des animaux après l'homme, alors que dans le premier récit c'était le contraire, mais encore une fois, peu importe, c'est l'intention qui compte, enfin c'est la démonstration. Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'homme avait pour nom être vivant. Ça commence par ça. L'homme désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui corresponde. Le Seigneur Dieu fit tomber dans une torpeur ou dans un sommeil l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise à l'homme en une femme, qui lui amena, et l'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été tirée. » Je me suis expliqué là-dessus. Aussi, l'homme, alors ça c'est le commentateur, enfin c'est l'auteur qui le commente, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Oui, ce récit presque risible, parce qu'on sait bien que en voyant la girafe, l'homme va pas s'exclamer « Waouh, voulez-vous m'épouser ?» Bon, c'était couru d'avance. Mais le but c'est quoi ? Mais c'est de démontrer que, encore une fois, et c'est ça qui fonde l'égalité de l'homme et de la femme, encore une fois, l'homme est seul si son interlocuteur, il doit le regarder en levant la tête, ça c'est pour Dieu. Et il est tout aussi seul, au sens ontologique du terme. Si il est en relation avec quelqu'un, vous pouvez faire défiler devant l'homme tous les animaux que vous voulez, de toute façon, ils ne seront jamais sur un pied d'égalité, ça ne sera jamais quelqu'un qui lui correspond ontologiquement. Et donc, c'est important quand même quand on parle d'Ève, la première des choses qu'il y a à dire, c'est que ni Dieu... ni les animaux ne peuvent combler cette forme-là, cet aspect-là de la solitude et de l'incomplétude, pour dire les choses, parce qu'il faut quelqu'un de correspondant, c'est-à-dire d'ontologiquement égal. C'est important de le dire. Ça ne veut pas dire pour autant, ne faites pas de moi le féministe que je ne suis pas, ça ne veut pas dire pour autant, et c'est, entendez-moi bien, ça n'est pas incompatible, qu'il n'y a pas de prééminence, pas de supériorité. Parce que, vous le savez, parce que vous connaissez ces récits par cœur, la domination de l'homme sur la femme, ça va être une conséquence de la faute. Ton désir envers lui, et lui, sa domination sur toi. Donc ça, c'est une conséquence de la faute. Ça ne serait pas arrivé si il n'y aurait pas de domination. En revanche, il y a une prééminence. Encore une fois, ce n'est pas à la mode de dire ça, et croyez bien que, je ne vais pas dire que ça me coûte, mais je ne peux pas retirer son enseignement à la Bible quand ça m'arrange. J'ai une fille qui a lu la Bible, et croyez bien que ce que Paul dit à Timothée, et je vais vous le lire, parce que La prééminence, elle est fondée comme ça, c'est-à-dire elle est fondée de deux manières. Si on connaît la symbolique, le fait que par deux fois, avec deux noms différents, ce soit l'homme qui donne un nom à la femme, ça crée une prééminence. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu... Encore une fois, la femme n'est pas sur le plan des animaux et inversement, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'homme qui, deux fois, une première fois on l'a lu, dit « elle est femme parce que tirée de l'homme »,« isha » parce que tirée de « ish », et la deuxième fois, elle dit, il va lui donner le nom de « Hawa », Ève, en disant « heureusement qu'il nous le dit d'ailleurs, parce que c'est pas, ça ne saute pas aux yeux, elle est la mère de tous les vivants. Mais à chaque fois, c'est l'homme qui nomme. Et ça crée une prééminence. Et donc, Paul va dire à Timothée, il y a deux raisons pour cette prééminence. Une, c'est de l'inné, l'autre, c'est de l'acquis. Il va lui dire, il y a une prééminence de l'homme sur la femme, notamment dans l'Église, du fait que, un, c'est pas la femme qui a été créée la première, c'est l'homme, donc une raison chronologique, et deux, c'est pas l'homme qui a été tenté en premier, c'est la femme. Alors, c'est dans deux Timothée, parce que j'ai pas pris de note aujourd'hui, je me suis dit, allez, soyons fous, alors, deux Timothée, c'est 1 Timothée 2. Voilà. 1 Timothée 2, verset 12. Je vous le lis, puisque vous le souhaitez. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne donc en silence, car en effet, c'est Adam qui a été formé le premier et Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, tomba dans la transgression. Cependant, elle sera sauvée par sa maternité. Ça, c'est un verset délicat, mais qui colle avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, je ne vais pas me lancer dans ces explications-là, parce que c'est... Voilà. Et donc, si prééminence il y a, elle vient de là, mais certainement pas du « je lui ferai une aide qui lui correspond ». Bien. Et donc, voilà. Et donc, voilà le couple constitué, puisque, alors, vous connaissez la phrase de Thomas d'Aquin qui dit, mais j'ai dit que c'était sur le ton de la conversation, donc une conversation, ça peut se reprendre un autre jour. Donc Thomas d'Aquin dit, c'est pas les mots exacts, hein, mais il dit ça, tirer de sa tête... la femme se serait sentie supérieure à l'homme, tirée de ses pieds, elle se serait sentie inférieure. C'est pour ça que Dieu l'a tirée de son côté pour qu'elle se sente son égale. C'est pas idiot. Il y a, en tout cas, par rapport à ce que je disais de l'égalité ontologique, ça a du sens. Je continue ma lecture. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire honte. Or, le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faite. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit de l'arbre des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, » souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de l'arbre du milieu, c'est pas l'arbre interdit. L'arbre interdit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre de vie. Donc là, il se trompe. Mais ça a un sens aussi. Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas pour ne pas mourir. Le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas parlé à la femme. Dans la première tablette, il s'adresse aux deux, indistinctement, et d'ailleurs, aucun des deux ne prend la parole dans le premier récit. Il leur dit, faites des enfants, remplissez la terre, et eux ne mouffent pas. Bon. Donc comme ça, c'est clair. Là, dans la deuxième tablette, Dieu a parlé à l'homme quand il était encore asexué, en tout cas quand il était une entité dont, par séparation, la femme a été tirée. C'est donc l'homme qui a dit à la femme, forcément, parce qu'elle dialogue avec le serpent, c'est l'homme qui a dit à la femme, alors voilà, parce que bon, elle s'éveille et il y a ce type en face d'elle qui dit « Waouh, super, bon, très bien, c'est entendu, bon ». Et puis, il y a le serpent qui se met à dialoguer en disant « Est-ce que Dieu a vraiment dit ça ?» Et la femme répond, et donc ce qu'elle sait, enfin, Ce qu'elle répond, ça lui vient d'Adam, qui lui a dit, qui a eu le temps de lui dire quand même entre deux, puisqu'il s'est passé des choses entre deux, qui a eu le temps de lui dire, bon voilà. Alors je t'explique, donc là on est dans le jardin, il y a plein de bons fruits, il y a largement de quoi nous nourrir, c'est bon, c'est varié, c'est frais, enfin, génial. Deux précisions à donner, il y a un arbre qui est obligatoire et un qui est interdit. Il y en a un qui est obligatoire parce que celui-là, et il lui montre l'arbre de vie, il est vital justement, c'est-à-dire que c'est grâce au fruit de cet arbre-là que nous garantissons une vie pérenne, et l'autre, et il lui montre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est interdit parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangez, et il lui explique ce dont on a débattu tout à l'heure. La femme, et c'est compréhensible, du coup se focalise sur, non pas l'arbre de vie, qui se consomme, dont les fruits se consomment comme tous les autres fruits de tous les autres arbres du jardin, donc ça le rend presque, en dehors du fait qu'il ne faut pas oublier d'en manger, parce que c'est la source de la vie, ça le rend presque banal, cet arbre. En revanche, le mystère, c'est l'arbre auquel il ne faut pas toucher. Et du coup, pour elle, le centre de tout, c'est ça. Vous savez que j'essaye, autant que faire se peut, mais avec Ève, il faut sortir les rames, de tirer des textes bibliques, des leçons pour nous. Je ne vais pas dire pour notre quotidien, pas exagérer, mais il faut aussi que ça nous serve de leçon. J'ai parfois tendance à placer au centre des choses l'interdit plutôt que la vie que Dieu me donne. Dieu me donne la vie, c'est infiniment plus important que les interdits qu'il pose. Sauf que ma nature humaine, et ça ne date pas d'hier, puisque Ève, pareil, merci maman, se focalise au point de répondre au serpent, l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut pas y toucher. Donc ça veut dire l'arbre que moi, je vois au milieu du jardin, tellement je me polarise sur l'interdit. Alors, après, on passe à autre chose. Si les serpents parlaient, ça se saurait. Ça, c'est ce que vous disent tous les théologiens libéraux de manière univoque. Et la conséquence qu'ils en tirent, c'est que le serpent, dans ce récit, qui n'est pas un récit écrit par un cartésien, c'est le moins qu'on puisse dire, il symbolise l'interrogation de la femme. C'est-à-dire que, alors, pour employer un terme, mais un terme précis. Ben justement, on va y venir. Ah ben si tu veux me faire parler une demi-heure de plus, libre à toi, mais tous les autres vont te tomber dessus. Le serpent qui ne parle pas, les conséquences que certains théologiens en tirent, c'est qu'encore une fois, c'est un avatar de l'inconscient de la femme. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous voulez, une projection. C'est-à-dire que, en fait, de la même manière que Jiminy Cricket la conscience, la bonne conscience de Pinocchio, si mes souvenirs sont exacts, enfin pour tous ceux qui ne sont pas nés directement à l'âge adulte, de la même manière, on pourrait penser que, en fait, le serpent symbolise avec Ève un dialogue qui est en fait son dialogue intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle qui se dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» C'est elle qui fait les questions et les réponses. Il y a des gens qui voient ça comme ça. Et du coup, attends, attends. La conséquence, mais je dis ça parce que c'est une théologie qui, enfin, c'est une dérive à mon avis qui pèse son poids aujourd'hui. C'est de ne pas croire à la réalité personnelle du mal. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, quand vous faites des sondages d'opinion, aujourd'hui, alors qu'en France, il y a encore un tiers de la population qui se dit vaguement croyante, bon, mais par contre, quand vous, quand vous demandez aux gens, par sondage, et ça a été fait, est-ce que vous croyez à l'existence du diable? Là, c'est à 90%, mais non. Ben, ça vient de là. Ça vient du fait que on peut, si on se laisse glisser sur cette pente facile, dire, mais ce qu'on appelle le diable, ou le serpent, ou Satan, dans les textes bibliques, c'est pas une personne, c'est la projection ou l'avatar de ce qu'il y a de mauvais en moi, comme là, des mauvaises pensées que Ève peut avoir. Alors, d'abord, les textes sont clairs sur le fait que c'est pas le cas, et puis surtout, ceux qui vont dans cette direction-là, mais pourquoi vous n'en faites pas autant pour Dieu ? Dire, si Satan ou le diable ou le serpent, c'est l'étiquette que je colle sur, en réalité, mes mauvais penchants, mes mauvaises pensées, enfin ce qu'il y a de noir dans l'être humain, Dieu c'est l'inverse. Donc c'est aussi une projection intellectuelle. Et c'est aussi quelque chose du coup quelque chose, pas quelqu'un, mais quelque chose d'inconsistant, d'inexistant, autrement que parce que j'ai en moi de bien, de bon, et que je vais sublimer en disant, on va lui coller une étiquette, et on va même lui donner un nom, et on va même en faire quelqu'un. C'est pas du tout ce que la Bible dit. Donc je ne suis pas en train de vous dire, le serpent, c'est le symbole, l'avatar des mauvaises pensées d'Ève. Non, il y a un vrai dialogue. En revanche, ce qu'on a le droit de dire, bibliquement, c'est que, et d'ailleurs, on a d'autant plus le droit de dire que c'est la Bible qui le dit, le serpent fait, donc le diable, fait preuve de ruse. Il va pas, et le diable, il faut jamais le voir avec, comme on le représente, c'est-à-dire des cornes, une queue fourchue, avec des flammes tout autour. Ça fout la trouille. Donc ça, on n'a pas envie. Enfin, ça fait pas envie. Alors que, je ne sais pas vous, mais quand vous êtes tenté, d'ailleurs, la tentation du Christ, c'est aussi une preuve du fait qu'il ne se pointe pas avec une casserole fumante. Voilà, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, moi je te propose un gueuleton. C'est toujours comme ça. Et là, ce que le serpent va dire à Ève, c'est non pas ce qu'elle a envie d'entendre, mais une possibilité qu'elle n'exclut pas, parce qu'elle a entendu le commandement de Dieu, non pas de manière directe, c'est pas Dieu qui s'est planté devant elle en lui disant « tu feras pas », c'est Adam qui a dit « voilà, il y a un arbre, et il y en a deux, donc il y en a un qui est obligatoire et l'autre qui est interdit ». Bon, ok. C'est moins impressionnant, au sens premier du terme. Moi, si Dieu se plante, alors que ça n'arrive pas, parce que sinon je serais réduit en cendres, mais si Dieu se plantait devant moi en disant « bon, à partir de maintenant, Dieu lui-même, à partir de maintenant, tu vas arrêter de traiter de connard tous les gens qui te refusent la priorité », je pense que je serais vacciné pour le restant de mes jours. Bon. Le seul fait que cet ordre-là, il me soit donné, non pas par Dieu qui apparaît dans une colonne de feu, mais par Jésus qui, il y a plus de 2000 ans, a dit « celui qui traite son frère de connard », parce que, je ne sais pas comment le traduire, enfin, il n'y a pas d'autre moyen de le traduire, mais « raca », vous l'entendez bien, d'ailleurs, c'est un mot qui s'éructe, donc c'est vraiment une insulte, c'est pas « homme de rien », tu parles. C'est connard, hein. Bon. Celui-là, dit Jésus, vous n'imaginez pas ce qu'il mérite. Bon. Mais le fait que ça me soit venu comme, enfin, par ce biais-là, c'est-à-dire indirectement, même si c'est la Bible, même si c'est Jésus, ouais, n'empêche que, quand même, il l'a vu le stop. Bon. Pareil pour Ève. Évidemment, je te rejoins tout à fait à coche, le serpent qui est tout sauf bête, au sens, évidemment, il s'adresse à Ève quand Adam n'est pas là. Parce que si Adam est là, c'est lui qui répond en disant « Mais moi, je sais. Moi, j'ai entendu Dieu en personne me dire que. » Alors que Ève, c'est « J'ai entendu Adam me dire que. » Dieu lui avait dit que. Du coup, c'est moins évident de tenir. Et la ruse du serpent, c'est de faire ça à double détente. Parce que finalement, elle répond, alors, elle se plante sur l'arbre qui est au milieu, bon, d'accord, c'est entendu. Mais elle dit, faut pas en manger. Et là, la ruse du serpent, c'est la tentation à double détente. C'est-à-dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ? Question que Ève s'est plus ou moins inconsciemment posée, ou en tout cas, dont elle n'exclut pas la possibilité qu'elle soit posée. Et puis alors, une fois qu'il se prend la réponse dans les dents, le serpent, il y a un deuxième étage de la fusée de la tentation. C'est bon, d'accord. Alors, il l'a dit. Il l'a dit, c'est entendu. Mais il l'a dit dans l'intérêt de qui ? Et là, vous allez voir à quel point Ève et nous, même combat. Il l'a dit dans l'intérêt de qui ? Dans le nôtre, dans le vôtre ou dans le sien ? C'est-à-dire, ok, il l'a dit, mais il l'a dit non pas parce que vous allez mourir. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tort, parce que la mort, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, Dieu n'était pas obligé de s'expliquer sur ce sujet. Non pas vous allez mourir, mais vous allez, effectivement, puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez connaître le bien et le mal, et du coup, ça fait de vous des dieux. Et donc, si Dieu vous a interdit ça, c'est dans son intérêt à lui. C'est une façon de mettre la concurrence à l'écart. C'est que si vous dites « on mange du fruit », vous devenez des dieux, c'est-à-dire vous vous mettez à égalité avec lui. La tentation, pour nous, ça ne va pas jusque-là. Mais ça va quand même dans... Alors, d'une part, je ne sais pas si vous ne vous êtes jamais dit « est-ce que Dieu a vraiment dit ça ?» Ou est-ce que... Alors, bien sûr que quand on a la Bible, on hésite à dire le contraire, mais est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça ? Ça, c'est une tentation. Est-ce que c'est vraiment le sens que Dieu a voulu donner à son enseignement et du coup, l'interprétation qui m'arrange, elle est plus tentante, au sens premier du terme, que l'interprétation qui ne m'arrange pas. Donc déjà, est-ce que Dieu a vraiment dit ? Ou est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ? Parce que, j'entre pas dans le détail, il est déjà tard, mais dans la façon de poser la question, il y a une subtilité. Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ? Ça veut dire aucun arbre du jardin ? Réponse, bah bien sûr que si, tous sauf un. Enfin, c'est compliqué de répondre à ce genre, c'est subtil. Et donc, où est-ce que j'en suis ? Là, je me suis un peu perdu. On était où là ? Pas grave. Bon, c'est pas grave. Oui, donc j'en étais à la double détente, c'est-à-dire d'abord, est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Et puis, s'il l'a dit, en admettant qu'il l'ait dit, ça c'est Ève qui traîne un peu les pieds, est-ce que finalement c'est bien dans mon intérêt ? Là, en l'occurrence, sous-entendu et pas dans le sien. Et ça, c'est une tentation. Et ça, c'est une tentation dans laquelle je me reconnais. Est-ce que en obéissant, je vais trouver mon compte ? C'est comme ça que ça peut se formuler aussi. Est-ce que je n'ai pas meilleur compte à désobéir qu'à obéir ? C'est ça la problématique d'Ève. Est-ce que mon intérêt, ce n'est pas de désobéir ? Est-ce que mon intérêt en désobéissant n'est pas supérieur à mon intérêt en obéissant ? Et à ce moment-là, effectivement, je me prends pour un dieu. Je me prends pour un dieu parce que je décide à la place de Dieu où est mon intérêt. Et ça, c'est une tentation d'Ève qui ne vaut pas que pour Ève. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc, alors, effectivement, donc, la femme, donc, j'ai plein de choses à... Voilà, heureusement que je n'ai pas pris de notes, parce que je me suis dit, si je prends mes notes, je vais parler 4h30. Là, je ne parlerai que 2h15. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, comme le serpent l'avait dit d'ailleurs, vos yeux s'ouvriront. Et ils surent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Alors, là où je pourrais ouvrir un chapitre, mais je ne vais pas le faire, parce que sinon on est parti pour encore des lustres, c'est que vous connaissez, même si elle est très schématique et très approximative, la répartition constitutionnelle de la masculinité avec le normatif et de la féminité avec le nourricier, le serpent sait à qui il s'adresse. S'il va vers le masculin, qui est plutôt dans la sphère normative, ce qui va ressortir, c'est le commandement de Dieu. S'il va plutôt vers le féminin, qui est plutôt dans le nourricier, ce qui va ressortir, c'est que le fruit est bon. Le fruit est appétissant, et le fruit permet non seulement de se nourrir, mais de nourrir l'autre aussi. La femme, là, elle est en plein dans son rôle quand elle mange et qu'elle donne à manger à Adam. Ah, je peux te donner, enfin, je peux te donner un fruit que tu n'es pas allé cueillir toi-même. Ça, c'est valorisant pour une femme. Donc le piège, il est là aussi. Et puis alors, il va falloir que je revienne là, parce que sinon on est parti pour... Mais je vais quand même finir en disant ce que j'ai là. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Qu'est-ce que c'est que cette pudibonderie judéo-chrétienne? On ne peut pas se balader à poil dans son jardin quand on n'a pas de voisin. Enfin, c'est vrai. L'avantage du jardin d'Éden, alors je vais vous dire, je ne suis pas promoteur immobilier, mais je vous le conseille parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Le premier voisin, on ne sait même pas où il est, tellement il est loin. Et donc, à partir du moment où on est marié, ce qui est bon, c'est pas gravissime de se promener à poil dans le jardin, surtout qu'on est dans un endroit où il fait pas froid. Hein. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette morale judéo-chrétienne qui vient nous dire « Waouh, c'est mal, vous êtes à poil ». Parce que ils connaissent tout d'un coup ce qui est bien et ce qui est pas bien, et sur quoi ça tombe, en disant, bon, alors, parce qu'évidemment, le mal, c'est entendu, mais personne n'a tué personne, pour l'instant. Ça va pas tarder à venir. Au chapitre suivant, ça y est. Mais, donc, pour l'instant, personne n'a tué personne, personne n'a violé personne, bon, enfin, bon, on n'est pas dans le... Ben, qu'est-ce qui peut être mal? Donc, ils cherchent. Tout frais, galvanisés de leur connaissance nouvelle du bien et du mal, et ils disent « Ah, on est nus ». Encore une fois, comment ne pas mettre derrière ça la morale à deux balles dont aujourd'hui plus personne ne veut? Ben parce qu'il ne s'agit pas de ça. Pourquoi est-ce que c'est mal? Et là, quand je disais les deux récits coïncide pour nous enseigner, mais à condition de les prendre ensemble, comme les deux récits du match de foot tout à l'heure, parce que si vous lisez les deux articles écrits par deux supporters différents, vous avez une idée approximative de ce qui s'est passé pendant le match. Mieux en tout cas que si vous n'en lisez qu'une. Là, c'est pareil. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça reflète correctement les qualités de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Paul écrira aux Romains en disant « Les hommes sont impardonnables parce que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu sont visibles. Bon. » Autrement dit, la création, avant qu'on l'ait abîmée bien sûr, mais la création reflète la perfection de Dieu. Là c'est pareil, la création reflète la perfection de Dieu et ça c'est bon. Et le mal, c'est pas tuer, voler, égorger, ça va venir encore une fois au chapitre suivant, mais le mal, c'est ce qui ne reflète pas la perfection de Dieu. Et qu'est-ce qui ne reflète pas la perfection de Dieu? Depuis que l'homme a été séparé en deux, Ben, c'est que précisément, il est imparfait. Il est sexué, ça veut dire imparfait. Ça veut dire que pour accomplir, il n'est pas parfait, c'est-à-dire Dieu a remplacé une imperfection par une autre imperfection, mais j'allais dire c'est normal, ça s'explique très bien. L'imperfection de la solitude ontologique de l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure, il l'a remplacée par son imperfection quand il est isolé, à remplir la mission que Dieu lui assigne, c'est-à-dire se reproduire. Pourquoi est-ce que ce qui va les gêner, ce qui va leur faire honte, c'est le sexe? C'est pas parce que un zizi c'est pas beau, ça c'est du puritanisme, encore une fois, à deux balles. C'est pas ça la question. C'est que, avant mes pensées, mes paroles et mes actes, qui ne reflètent pas, je vous le concède, dans 99,9% des cas, la perfection de Dieu, il y a quelque chose, quand on me regarde sans mes vêtements, qui ne reflète pas la perfection de Dieu, c'est que je suis incomplet. Et c'est pour ça que quand je sais ce qui est bien et mal, alors pas mal au sens, mais ce qui est parfait et imparfait, disons-le comme ça, ça a plus de sens, ce qui est parfait et imparfait, bah la première chose qui me saute aux yeux, si je peux me permettre cette expression, c'est mon caractère sexué, parce que ça fait de moi un individu incomplet, et cette incomplétude, elle ne reflète pas Dieu. Donc encore une fois, c'est pas, y a pas de morale derrière ça. Il y a simplement, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient chacun individuellement qu'imparfaitement des images de Dieu, notamment par leur caractère sexué, et ça, du coup, ils en ont honte. Donc encore une fois, pas de morale derrière ça. Alors, non, écoutez, il serait pas raisonnable que j'en ai encore pour, allez, si je vous dis tout ce que j'ai à dire, trois quarts d'heure. Donc, est-ce que... Non, mais c'est très gentil, mais trois quarts d'heure de plus, franchement, ça va vous gaver. Non, mais on peut convenir, si vous êtes d'accord, on peut convenir que je reviens une autre fois pour vous dire là, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui m'ont intéressé, qui m'ont parlé, qui m'ont interpellé, qui m'ont enrichi, enseigné, tout ce que vous voulez, que j'aimerais bien modestement partager avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que je m'arrête là, et puis que, parce qu'il y en a largement pour une autre séance de la même durée, que la prochaine fois, je passe aux sanctions, où il y a aussi des choses, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Je m'arrête alors ?